Bienvenue dans le podcast Hacker News Daily de Brie, je suis Claire Martin.
Et moi Nicolas Moreau. Au sommaire aujourd'hui, AWS affiche des données de facturation erronées à hauteur d'$1,7 milliard.
On parlera aussi de la première atmosphère détectée autour d'une planète semblable à la Terre, située dans la zone habitable d'une étoile lointaine.
La FAA autorise à nouveau Boeing à certifier elle-même ses 737 MAX et 787. Et nous reviendrons également sur l'état de l'intelligence artificielle open source. C'est parti.
Commençons par une alerte inhabituelle remontée par des utilisateurs d'Amazon Web Services. Sur Hacker News, un utilisateur sous le pseudonyme Npratim a partagé une estimation de facturation qui a de quoi surprendre. Sa facture prévisionnelle pour le mois en cours atteint $1,7 milliard.
Un chiffre colossal, alors que cet utilisateur précise que son utilisation normale est inférieure à $5. Il a immédiatement créé un ticket de support urgent auprès d'AWS.
Et il n'est pas seul. Un autre utilisateur, MSTOLEPM, a reçu une alerte AWS Budget signalant un dépassement de son seuil de $5. Le montant prévisionnel affiché, plus de $3 milliards.
Il faut noter que cet utilisateur indique ne pas avoir utilisé activement AWS au cours de la dernière année. Le robot conversationnel du support AWS lui a d'ailleurs suggéré que les coûts quotidiens, parfaitement constants depuis le 1er juillet, laissent fortement penser à une erreur de facturation ou de mesure.
Par précaution, cet utilisateur a désactivé tous ses rôles IAM et supprimé les ressources AWS qu'il a pu identifier. Il précise toutefois que son accès à AWS ne semble pas avoir été compromis.
Côté officiel, un avis AWS Health rapporte des données de facturation estimées inexactes en mentionnant explicitement ce chiffre de $1,7 milliard. Sur Reddit, le fil partagé par Npratim confirme que d'autres utilisateurs rencontrent des problèmes similaires.
On retient donc un incident de facturation en cours chez AWS avec des montants prévisionnels aberrants signalés par plusieurs utilisateurs et une reconnaissance officielle du problème par AWS Health.
Changeons de sujet pour une avancée scientifique majeure rapportée par la BBC. Des astronomes ont détecté pour la première fois une atmosphère autour d'une planète rocheuse semblable à la Terre, située dans la zone habitable de son étoile.
L'exoplanète concernée s'appelle LHS 1040b, une illustration du Center for Astrophysics, Harvard and Smithsonian, la représente comme une grande planète rocheuse d'un brun rougeâtre bordée d'une faible lueur atmosphérique bleu-blanc en orbite autour d'une petite étoile rouge.
L'information a été signée par le correspondant scientifique de la BBC, Palab Ghosh. Elle a été publiée il y a 2 heures et partagée sur Hacker News, où elle a déjà reçu 388 points.
C'est une première pour une planète rocheuse de ce type située dans la zone habitable de son étoile. L'article original est accessible sur le site de la BBC.
Terminons avec une décision réglementaire américaine. La FAA, l'Agence fédérale de l'aviation américaine, a officiellement rétabli l'autorisation pour Boeing de délivrer ses propres certificats de navigabilité pour les appareils 737 MAX et 787.
Cette annonce a été rapportée par CNBC le 17 juillet 2026. Elle fait suite à des années de surveillance renforcée imposées après les accidents mortels du 737 MAX en 2018 et 2019. Et après la découverte de problèmes de qualité de fabrication sur le 787.
Concrètement, ce retour de délégation s'inscrit dans le cadre du programme de certification des organisations de conception de la FAA. Boeing peut désormais réaliser les inspections finales de sécurité et signer les certificats attestant qu'un appareil neuf est en état de voler, sans avoir à attendre l'approbation directe d'un inspecteur gouvernemental pour chaque livraison.
Le rapport de CNBC précise que les programmes de certification des deux familles d'appareils sont désormais concernés. En revanche, les conditions ou limitations éventuelles attachées à cette autorisation, tout comme la date exacte du début de la mise en œuvre ou les réactions des familles de victimes, n'ont pas été précisées dans l'article.
On retient donc ce rétablissement d'une délégation importante pour Boeing qui modifie le processus de certification et de livraison des 737 MAX et 787 sans que l'on connaisse encore tous les détails des conditions posées par le régulateur.
Mozilla a publié la première édition récurrente de son rapport The State of Open Source AI version 1.0 en juillet 2026. Dans la lettre d'introduction, le directeur technique Rafik Krikorian donne plusieurs exemples concrets pour montrer l'étendue réelle de l'IA ouverte.
Et ces exemples sont vraiment dispersés géographiquement. Dans l'extrême nord de la Nouvelle-Zélande, un diffuseur maori entraîne des modèles vocaux pour le toréo. C'est une langue trop petite pour intéresser le marché et la licence utilisée garantit que les données restent au sein de la communauté.
Autre cas notable, le cabinet comptable PwC. Ils ont affiné un modèle ouvert sur le langage de la finance et aujourd'hui ils l'exploitent pour des centaines de clients sur leur propre matériel, sans compteur de jetons.
Dans le domaine médical, des chercheurs lausannois ont construit un modèle ouvert avec la Croix-Rouge alignée sur ses directives humanitaires. Des essais cliniques sont en préparation en Suisse et en Tanzanie.
Il y a aussi un cas très concret en Afrique de l'Est. des agriculteurs utilisent un modèle fonctionnant hors ligne sur leur téléphone pour détecter la maladie du manioc directement dans les champs que le cloud n'a jamais atteints.
Et puis en Suisse, un consortium public a entraîné un modèle national sur des supercalculateurs publics et l'a diffusé librement. Voilà des cas d'usage qui illustrent vraiment ce que Mozilla entend par l'état de l'IA open source.
On change de sujet. Les infirmières de l'hôpital Kaiser dénoncent l'effet délétère de l'intelligence artificielle et de la surveillance sur leur travail et sur les soins aux patients. C'est ce que rapporte un article de Local News Matters, soumis sur Hacker News par l'utilisateur Niabjib.
Le personnel soignant affirme clairement que ces outils technologiques dégradent leurs conditions de travail et détériorent la qualité des soins. Cela dit, l'article ne détaille pas les systèmes d'IA précis, ni les dispositifs de surveillance, ni les éventuelles mesures de performance qui seraient contestées.
Ce qui émerge du reportage, c'est surtout un clivage grandissant entre la direction de l'hôpital et les soignants sur l'automatisation du suivi clinique. Et les prochaines étapes sont encore à venir. La réaction officielle de Kaiser et d'éventuelles mobilisations du personnel infirmier sont attendues.
Donc une situation où la technologie promet des gains d'efficacité, mais où ceux qui la subissent au quotidien tirent la sonnette d'alarme. On verra comment l'hôpital répondra.
Dernier sujet, une discussion qui a émergé sur Hacker News autour d'une compétition Kaggle intitulée « Measuring Progress Toward AGI », mesurer les progrès vers l'intelligence artificielle générale. Un commentateur a lancé une affirmation radicale.
Il a écrit, je cite, que l'IA est inutile à 95%, une position très tranchée. Mais tout de suite, un autre intervenant l'a contesté.
Oui, ce deuxième commentateur a estimé que l'IA était utile à 65%, et il a ajouté que des domaines comme la robotique, l'informatique, la finance et le droit, je cite encore, ont été transformés par l'IA.
Et là, un troisième commentaire est venu mettre en doute cette formulation, avec une remarque assez piquante. Il a répondu, apparemment, avoir été transformé a été transformé. Une façon de pointer l'inflation du langage autour de l'IA.
Voilà qui résume bien le débat du moment. Entre ceux qui crient à l'inutilité, ceux qui voient une transformation profonde et ceux qui questionnent les mots mêmes qu'on emploie pour en parler. Commençons par une annonce qui secoue le paysage des grands modèles de langue. Le laboratoire chinois Moonshot AI vient de dévoiler Kimika 3, qu'il décrit comme son modèle le plus performant à ce jour.
Et les chiffres sont massifs, 2,8 billions de paramètres. Moonshot l'appelle le premier modèle ouvert de classe 3T en arrondissant à 3 billions. Pour donner un point de comparaison, DeepSeek V4 Pro plafonne à 1,6 billion de paramètres.
Le modèle est d'ores et déjà disponible via le site web et l'API de Moonshot. L'entreprise promet également une version en poids ouvert d'ici le 27 juillet 2026.
C'est intéressant, cette notion de poids ouvert. Moonshot semble vouloir se positionner sur le créneau de l'ouverture, un peu comme DeepSeek l'avait fait auparavant, mais avec une échelle de paramètres nettement supérieure.
Voyons maintenant ce que valent les performances revendiquées. Sur leur propre benchmark, Kimika 3 surpasse le plus souvent Claude Opus 4 Root Max et GPT 5.5 AI.
Attention toutefois, il reste derrière Claude Fable 5 et GPT 5.6 seul. Moonshot ne prétend donc pas avoir détrôné les tout meilleurs modèles du marché, mais il se positionne clairement dans le haut du panier.
Ce qui frappe, c'est la vitesse à laquelle ces laboratoires chinois continuent de pousser la taille des modèles. On parlait de 1,6 billion pour DeepSeek, et voilà qu'on passe à presque 3 billions.
Et rappelons que ce ne sont que les benchmarks internes de Moonshot. Il faudra attendre des évaluations indépendantes pour confirmer ces résultats. Mais l'annonce est en tout cas un signal fort sur la direction que prend la compétition.
Passons maintenant à la sécurité des preuves cryptographiques. Le deuxième article de la série AI Meets Cryptography, publié par ZKSec, rapporte une découverte assez remarquable.
Leur auditeur IA, baptisé ZKO, a mis au jour un bug critique de solidité dans une bibliothèque invitée d'OpenVM appelée OpenVM Pairing.
Et ce bug est sérieux, il permet à un prouveur malveillant de falsifier n'importe quelle égalité de couplage. En clair, quelqu'un pourrait faire croire à une vérification réussie alors que ce n'est pas le cas.
Il faut être très précis ici. Il ne s'agit pas d'un défaut dans le système de preuve du ZKVM lui-même. Le problème concerne uniquement le code qui utilise cette bibliothèque vulnérable. La machine virtuelle Zero Knowledge d'OpenVM n'est pas directement en cause.
La vulnérabilité a reçu l'identifiant CVE 2026-400-669. Elle a été corrigée dans la version 1.6.0 d'OpenVM et selon le rapport, tous les partenaires qui construisent sur OpenVM auraient déjà migré vers cette version.
Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est que c'est une IA qui a trouvé le bug. Je sais KO, l'auditeur IA de ZKSS, a identifié une vulnérabilité critique dans du code cryptographique. C'est un cas d'usage très concret de l'IA appliquée à la sécurité.
Et cela soulève une question intéressante. Si les IA peuvent trouver des bugs dans les preuves cryptographiques, elles pourraient aussi aider à les rendre plus robustes. Une course entre attaque et défense, mais avec l'IA des deux côtés.
Le fait que la correction ait déjà été déployée et que les partenaires aient migré montre aussi une réactivité exemplaire de l'écosystème OpenVM face à ce type de découverte.
Et justement, restons dans la sécurité du code assisté par IA. Capital One a publié en open source le 16 juillet 2026 un outil appelé Vuln Hunter.
Vuln Hunter est un outil de sécurité du code qui utilise de l'IA agentique. Le concept d'IA agentique, c'est une IA capable de planifier et d'exécuter des actions de manière autonome pour atteindre un objectif. Ici, l'objectif, c'est de trouver des vulnérabilités.
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la justification avancée par Capital One dans son annonce. L'entreprise explique que les modèles d'IA avancés abaissent la barrière pour les acteurs malveillants.
Exactement. Capital One précise que ces modèles permettent aux attaquants d'automatiser et d'accélérer la découverte et l'exploitation de vulnérabilités logicielles. Et ils ajoutent que des capacités d'attaque sophistiquées de nouvelle génération deviendront bientôt abordables et accessibles à grande échelle.
C'est un raisonnement assez transparent de la part d'une grande institution financière. Ils disent en substance, les attaquants vont utiliser l'IA pour trouver des failles plus vite, donc nous devons utiliser l'IA pour les trouver avant eux.
Et en publiant Vuln Hunter en open source, Capital One permet à toute la communauté de la sécurité de bénéficier de cet outil. C'est une approche défensive qui mise sur la transparence et la collaboration.
Cela fait écho à ce qu'on disait sur ZKO et la bibliothèque OpenVM Pairing. L'IA devient un outil central dans la détection de vulnérabilités, que ce soit dans le code applicatif classique ou dans des composants cryptographiques spécialisés. On commence avec SpaceX. Les vendeurs à découvert ont empoché 8,7 milliards de dollars de profit sur le titre, selon Reuters.
Un chiffre colossal. Les actions SpaceX sont redescendues au niveau de leur prix d'introduction, ce qui a évidemment favorisé ces positions baissières.
Exactement. Pour rappel, un vendeur à découvert emprunte des titres, les vend en pariant sur une baisse, puis les rachète moins cher avant de les restituer. La différence est son profit.
Et quand le titre revient au prix d'introduction, le gain est mécaniquement important pour ceux qui ont ouvert leur position à des niveaux plus élevés. Reuters rapporte donc ce total de 8,7 milliards.
C'est un signal fort sur la valorisation que le marché attribue actuellement à SpaceX, surtout quand on repense au niveau auquel l'action avait grimpé auparavant.
Et ça souligne aussi la volatilité de ces titres non cotés en bourse traditionnelle, où la liquidité et les prix peuvent varier assez différemment des marchés publics.
On change de registre. Apple adresse des courriers juridiques à des dizaines d'employés d'OpenAI d'après le Financial Times.
Alors, c'est une démarche qui interpelle. Apple cible directement des salariés d'OpenAI avec des lettres à portée légale.
Le Financial Times ne précise pas la nature exacte de ces courriers, mais le fait qu'ils soient qualifiés de juridiques suggère une tension entre les deux entreprises.
C'est frappant parce que Apple et OpenAI ont collaboré récemment, notamment autour de l'intégration de ChatGPT dans les appareils Apple.
Oui, ce partenariat rend ces lettres d'autant plus notables. Le Financial Times parle de dizaines d'employés visés. Ce n'est donc pas un cas isolé.
On peut imaginer des questions de recrutement ou de clauses contractuelles, mais sans plus de détails du Financial Times. Il faut rester prudent sur les causes.
Tout à fait. Ce qui est certain, c'est qu'un geste juridique de cette ampleur entre deux poids lourds de la tech mérite d'être suivi de près.
Terminons par un anniversaire. Le Zilog Z80, lancé en juillet 1976, fête donc ses 50 ans.
Un demi-siècle. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un microprocesseur qui a connu un immense succès, comme le raconte un article de blog de Stein Goliath.
Immense, oui. Il a équipé une multitude de micro-ordinateurs 8 bits, les premiers ordinateurs personnels, des machines domestiques, de loisirs et d'innombrables systèmes industriels et embarqués.
L'auteur souligne un point clé. Avec les Intel 8080 et 8085, dont il est compatible au niveau binaire, le Z80 a contribué à créer un standard matériel de fait pour les micros 8 bits.
Et ce standard matériel a permis l'émergence de standards logiciels qui ont marqué l'histoire, CPM et Microsoft Basic.
C'est un héritage énorme. CPM a été le système d'exploitation dominant avant l'arrivée de MS-DOS, et Microsoft Basic a été la porte d'entrée à la programmation pour toute une génération.
L'article mentionne aussi que le Z80 a donné naissance à de nombreux clones et dérivés, preuve de son influence durable dans l'industrie.
50 ans plus tard, on mesure à quel point cette puce a façonné l'informatique personnelle et industrielle. Un anniversaire qui méritait d'être souligné. Demain, le Recurse Center fête ses 15 ans. L'histoire commence à l'été 2010, quand Nicolas Gibès et ses cofondateurs sortent de Y Combinator.
À l'époque, leur projet s'appelait OkCupid pour l'emploi. Un échec rapide. Et ce n'était que le premier d'une série de pivots qui n'ont pas fonctionné.
C'est un besoin très personnel qui a finalement donné naissance au Recurse Center. L'idée, une retraite de programmation autodirigée. Les participants construisent des projets, contribuent à l'open source et s'entraident.
Ils commencent modestement, avec deux premières sessions en petit comité, et puis vient le moment décisif, une publication sur Hacker News.
Et là, l'accueil est exceptionnel. Cette publication leur permet de dépasser leur réseau personnel. D'un coup, des programmeurs du monde entier découvrent le programme et candidatent.
Et ce n'est pas anecdotique. Hacker News est resté, depuis, leur deuxième source de candidats, juste derrière le bouche-à-oreille.
15 ans plus tard, Nicolas Gibès signe un message de remerciement sur Hacker News. Le titre dit tout. Merci à Chaîne pour ses 15 années de soutien et pour m'avoir aidé à trouver le travail de ma vie. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. On a fait un bon tour d'horizon aujourd'hui.
Oui, beaucoup de choses à retenir. On a parlé de cette erreur de facturation chez AWS, un bug qui a affiché 1,7 milliard de dollars alors que le client ne devait que 1200 dollars. Un écart assez spectaculaire.
Et puis une première, la détection d'une atmosphère sur une planète rocheuse en zone habitable, 55 Cancriers, une avancée rendue possible par le télescope James Webb.
On a aussi vu que la FAA redonne à Boeing le pouvoir de certifier elle-même ses 737 MAX et 787, une décision qui relance pas mal de questions.
Côté IA, un rapport assez critique sur l'état de l'open source et des infirmières de Kaiser qui dénoncent l'impact de l'IA et de la surveillance sur la qualité des soins.
Sans oublier Kimika 3, Vuln Hunter chez Capital One, les 8,7 milliards engrangés par les vendeurs à découvert sur SpaceX, le Z80 qui fête ses 50 ans, une légende et un bel hommage à la communauté HN.
Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très vite pour le prochain épisode.